Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Vous êtes à l'écoute de Radio Kapi. Pour suivre l'essentiel de l'actualité, voici les principaux faits qui marquent cette journée. Jean-Pierre Lacroix en Ituri, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, a entamé une visite à Fataki dans les territoires de Djougou, alors que l'activisme de groupes armés connaît une recrudescence dans la province. Jean-Pierre Lacroix réaffirme l'engagement de l'ONU pour la paix. Effondrement du pont Bundwe dans le haut Lomami, un axe vital entre le Grand Katanga et les Grands Kasai, coupé net. Les habitants contraints de traverser le fleuve en pirogue dans des conditions précaires. Entretien exclusif, quel bilan pour la sensibilisation contre le choléra au Haut-Katanga. Dans quelques instants, Donatien Kabwanda, coordonnateur du REDEC Sud-Est, revient sur les résultats de la campagne menée dans les zones de santé de Likasi et Kambove. Un échange à ne pas manquer pour comprendre les enjeux sanitaires et les efforts communautaires dans la lutte contre le choléra. Gisèle Cage à la présentation. Bienvenue dans ce journal. Nous ouvrons cette édition avec la visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, en Ituri. C'est samedi matin, il a atterri à l'aéroport Murongo de Bunia, où il a été accueilli avec les honneurs militaires. Sans tarder, le chef du maintien de la paix et sa délégation ont pris la route pour Fataki, située à 115 km au nord de Bunia, dans les territoires de Djougou. Cette visite vise à réaffirmer l'engagement de l'ONU dans le processus de paix à un moment où l'activisme de groupes armés connaît une recrudescence dans la province. Le point avec Martial Kizabiamungu.
Accompagné d'une forte délégation comprenant entre autres la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, le commandant de la force onusienne en RDC, le général Olis Miskita Gomez, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, arrive à Ituri pour réaffirmer les soutiens des Nations Unies et de la MONUSCO aux côtés des FRDC et de la police à la sécurisation des civils exposés aux attaques de groupes armés. Ces dernières semaines, à la suite de la résurgence de l'activisme de certaines milices réfractaires au processus de paix, marqué par des enlèvements des civils, pillages de véhicules, attaques contre les forces loyalistes et tueries d'innocents, la MONUSCO a renforcé sa présence dans certaines régions de l'Ituri, notamment dans les territoires de Djougou et d'Irumu. Dans les territoires d'Irumu et d'Djougou, les deux forces conjointes mènent régulièrement des opérations militaires contre ces groupes armés. Des nouvelles bases militaires temporaires ont ainsi été installées à plus de l'intensification des patrouilles de combat. À Fataki, dans les territoires de Djougou, où il s'est rendu, Lacroix a échangé avec le membre du comité local de sécurité et des différentes communautés affectées par les conflits armés. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Poursuivons ce journal dans la province du Haut-Lomami. Un incident majeur perturbe la circulation. Le pont Bundwe, construit sur le fleuve Congo, dans les territoires de Bukama, s'est effondré lundi dernier sous le poids d'un camion surchargé des marchandises. Selon l'administrateur du territoire, le trafic est désormais interrompu sur la route numéro 1 à cet endroit. Pour traverser, la population n'a d'autre choix que d'utiliser des pirogues. Ces ponts jouent pourtant un rôle stratégique en reliant les provinces du Grand Katanga à celle du Grand Kasai. Le point avec Paul Amunanga.
Une centaine de camions et de motos chargés de marchandises en provenance de Lubumbashi ou de l'espace du Kasai sont bloqués de part et d'autre du pont Bundwe, rapporte des témoins. Le coordonnateur de la société civile du territoire de Bukama revient sur les circonstances de l'affaissement du pont Bundwe. Augustin Monga.
Un camion de marque OO, poids lourd qui venait de Lubumbashi, le gérant a utilisé une ruse et il a pris le sac de moustiquaire et l'a mis au-dessus. Et en bas, c'était que des sacs de ciment qui étaient remplis. Et en voulant traverser le pont a eu un effondrement et le camion a échoué de passer. C'est au gouvernement que nous continuons à demander de pouvoir y jeter un nouveau pont qui va répondre au tonnage de ces jours ici.
Pour l'administrateur du territoire de Bukama, ce pont est conçu pour supporter une charge de 40 tonnes, mais les commerçants ont l'habitude de surcharger leurs camions. Dieudonné Salomon.
La capacité ces bons-là, en tout cas, n'a pas les mesures de supporter beaucoup de tonnage. Parce que nos frères commerçants, ils sont l'habitude de charger des surplus de tonnage. Or, les bons-là, on avait conçus à 40 tonnes. Et ils prennent jusqu'à 80, même 100 tonnes.
L'autorité de Bukama indique que c'est pour la troisième fois que ce pont s'affaisse depuis qu'il est à la tête de ce territoire. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et puis, dans ce journal également, au Nord Kivu, un jeune activiste du mouvement national congolais MNC interpelle les autorités provinciales. Dans une lettre adressée jeudi au gouverneur Kakule Kavikwa, Credo appelle l'autorité provinciale à intervenir en urgence pour la construction d'un pont sur la rivière Semouliki sur le tronçon Kassindi-Karuruma. Il souligne l'importance économique de cette route pour la région et l'impact que son état actuel pourrait avoir sur les échanges et la mobilité des populations. Selon lui, un pont public permettrait de faciliter le transport des personnes et des biens, un levier essentiel pour le développement durable de la région. Il dénonce par ailleurs l'opposition de certains exploitants du bac privé qui, selon lui, tirent depuis des années des profits importants et en faisant payer chaque traversée. On l'écoute.
Ça fait plus de 15 ans que bac privé opère sur la rivière Semouliki entre Kassindi et Karuruma. Cette situation a plus généré d'importants revenus pour des particuliers. Des sources fiables estiment les recettes à plus de 2000 dollars par jour. La population est contrainte de payer un service qui devrait être public. C'est pourquoi nous exigeons la construction immédiate d'un pont à cet endroit. Nous attirons aussi l'attention du gouvernement provincial sur la gestion opaque de ces bacs privés pendant plus de 15 ans. Nous vous prions, Excellence, de bien vouloir accorder à cette situation l'attention qu'elle mérite et à prendre des mesures rapides et concrètes pour répondre à cette doléance légitime de la population. Nous signalons ici qu'à territoire de Beni, il y a même les élus qui se font élire parce qu'ils ont simplement promis à la population de leur venir en aide en construisant un pont sur cette tronçon. Donc, c'est une urgence que le gouvernement provincial devrait tenir compte.
À noter que depuis sa prise de fonction comme gouverneur de province, le général Évariste Kakule Somo avait déjà entrepris des démarches auprès de sa hiérarchie en vue de la construction de ce pont, une initiative motivée par les nombreuses plaintes des usagers sur cet axe routier jugé crucial tant sur le plan économique que sécuritaire. À Kinshasa, des travaux de réhabilitation sont en cours sur certaines voies, tandis que le curage des caniveaux se poursuit activement sur d'autres. Si cette initiative est globalement saluée par les habitants rencontrés, certains expriment toutefois des inquiétudes. Ils demandent que l'état des sables et de déchets extraits des caniveaux actuellement entassés sur la voie publique soit rapidement évacué afin de faciliter la circulation des piétons. Un reportage signé Luc Nzao et J.R. Kabamba.
Sur les avenues Mondjiba dans la commune d'Engalema et Kasavubu dans la commune de Bandalungwa, les curages des caniveaux se poursuivent. Ici, les dalles sont enlevées et les agents commis à cette tâche, gants aux mains et bottes aux pieds, descendent dans ces rigoles pour enlever les immondices. Objectif visé, rendre fluide la circulation des eaux avant la tombée des pluies qui sont souvent à la base des inondations. Ce n'est pas tout. Le curage s'est fait aussi dans certaines rivières, à l'instar de la rivière Mapenza, à côté de l'hôtel Malebo en Galema. La non-évacuation des immondices pose problème. Ce que déplore cette habitante de l'avenue Mapenza.
Ça fait déjà 3 mois que ces immondices ne sont pas évacués depuis qu'on a curé la rivière. Bientôt les pluies vont tomber, on vient les enlever afin de nous éviter les inondations. Il y a aussi les bureaux de la CNSS ici qui courent ces risques.
Fulgence Bolonkomo, bourgmestre de la commune de Ngalema, rassure et évoque un autre défi à relever.
Ça n'entraîne pas tellement, mais vous savez que pour évacuer, il faut avoir des moyens, il faut avoir un véhicule. Et pour avoir un véhicule, pendant que la commune n'a pas de véhicule, nous louons. Et quand on n'a pas d'argent, on attend. Les jours où on a l'argent, on loue le véhicule.
Notons que ces travaux se font dans plusieurs autres communes de Kinshasa.
Au Kasaï oriental, une nouvelle pratique gagne du terrain au grand marché Bakwa Dianga, situé dans la commune de Lankishi, à Mbujimai. De plus en plus, des commerçants exposent leurs marchandises à même le sol, le long de l'avenue Kalonji. Une situation préoccupante qui expose des vendeuses au risque d'accidents de circulation, tout en favorisant la propagation des maladies hydriques et l'insalubrité, notamment à travers la manipulation des produits avec des mains non lavées. Les explications avec Esther Ndalafina.
Il est actuellement difficile de stationner un véhicule sur l'avenue Kalonji, tronçon situé entre le rond-point de l'Étoile et la mosquée. C'est là à cause des marchandises étalées de part et d'autre de la voie publique par les femmes marchandes. Marie Kassenga justifie sa présence sur la route.
Il n'y a pas de place à l'intérieur du marché. Lorsqu'on étale nos articles à l'intérieur, le client ne s'approche pas du tout. Nous prenons ces marchandises à crédit. Nous profitons aussi des clients qui arrivent et achètent rapidement.
Cependant, cette vente crée des embouteillages, comme l'indique Charles Mbaya.
La route devient rétrécie, la circulation perturbée à cause de cette vente.
Vendre le long de la route expose les marchandes aux accidents. Même les clients sont conscients de cette situation.
Un accident, elles ne seront pas épargnées.
Romain Biayakalala, administrateur du marché Bakwadianga, affirme que des sensibilisations ont été menées, mais sans succès.
Si on trouve quelque chose, si les artères principales, c'est fini, ne passez pas à notre bureau pour venir retirer. Ça sera dirigé à la mairie.
Selon l'administrateur du marché, les initiatives entreprises pour assurer le bon fonctionnement du marché échouent le plus souvent à cause de l'ingérence. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu, le gouverneur de province prend des mesures pour assainir les opérations aux frontières. Ce vendredi, il a signé un arrêté réglementant les services autorisés à intervenir aux postes frontaliers et aux différentes barrières officielles. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires en réponse aux plaintes récurrentes des commerçants qui dénonçaient les tracasseries imposées par certains services de l'État. Pour garantir l'application de cette mesure, une commission de suivi a été mise en place afin d'identifier et sanctionner les contrevenants. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Cette décision de l'autorité provinciale intervient alors que des violations délibérées et flagrantes de l'ordre opérationnel avaient été enregistrées au sein des services étatiques opérant au poste frontalier ainsi qu'au lieu de chargement et de déchargement dans la province du Nord Kivu. Conséquence, tracasserie, concertation illicite et coulage des recettes de l'État, ce qui a motivé le gouverneur à réaménager l'ordre opérationnel pour les services habilités à travailler au poste frontalier et aux barrières officielles dans un arrêté dont voici un extrait lu par David Kamuha, conseiller du gouverneur en matière des finances.
Il s'agit de la direction générale des douanes et accises pour les formalités de dédouanement des marchandises à l'importation et à l'exportation. L'office congolais des contrôles pour le contrôle au lieu d'embarquement et de débarquement de la quantité, de la qualité et des prix des marchandises et produits exportés et importés. La direction générale des migrations pour les mouvements des personnes physiques à l'arrivée et au départ. Le service d'hygiène publique pour le contrôle sanitaire. La police des frontières et les services non apparents. En cas service non habilité, ne sera admis aux postes frontaliers, aux barrières et aux lieux de déchargement.
Dans la partie grand nord de la province, cette mesure concerne les postes frontaliers et barrières de Kassindi-Rubiria et de Nobili, tous situés vers la partie nord-est du territoire de Beni, qui ouvre la voie aux pays de l'est du continent africain. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
À Kisangani, dans la province de la Tchopo, 43 jeunes entrepreneurs, dont 10 femmes, viennent de bénéficier d'une formation en agroécologie et en production maraîchère. Cette initiative est portée par l'Agence nationale de développement et de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, avec le soutien de l'Agence belge de coopération internationale, ENABEL. La formation s'est déroulée du 29 août au 4 septembre. Mais en quoi a-t-elle consisté exactement? Les précisions avec Jacques Moukongolé.
Ces jeunes entrepreneurs évoluent dans la transformation agricole, l'élevage et la culture maraîchère. Selon Judith Bassoubi, la chargée de communication de l'initiative pour l'entrepreneuriat agricole et le métier UPENAG, désormais, ces jeunes sont capables de fabriquer des composts.
Parce que les compostières, c'est la matière la plus essentielle dans la culture maraîchère pour aussi une bonne rentabilité, pour la fertilisation aussi des sols.
Les bénéficiaires se réjouissent de la formation reçue. Témoignage de l'un d'eux, Gloria Bolawa.
On a vu quelques définitions, les avantages de l'agroécologie, les caractéristiques et les principes de l'agroécologie.
En appuyant ce genre de formation, Enabel voudrait garantir le développement et pérenniser favoriser les activités de l'entrepreneuriat des jeunes, déclare son représentant à cette formation. Paul Moussaïa exprime ses attentes.
Nos attentes, c'est beaucoup plus que ces jeunes soient actifs sur terrain, de telle sorte que l'impact de leurs activités puisse avoir une pérennité, une durabilité, de telle sorte que, après eux, que des générations et générations après puissent bénéficier de leurs actions sur terrain.
À partir de lundi prochain, ANADEC enverra ses jeunes sur terrain pour la mise en pratique de la formation reçue jusqu'au 12 septembre prochain. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, dans le territoire de Beni, le ministre de l'Agriculture, Mouindo Nzangi, s'est rendu ce vendredi à l'unité agro-industrielle de Mutuanga située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Beni. Cette structure mise en place par le Parc national des Virunga transforme localement le cacao, le café, l'huile de palme. Elle produit chaque année des milliers de tonnes de ces denrées ainsi qu'une variété des produits alimentaires et du savon. Impressionné par le potentiel de ce modèle, le ministre plaide pour un renforcement de la sécurité autour du site afin d'en garantir la pérennité. Écoutons sa réaction au micro de Marc Marofimbo.
Le palmier à huile, c'est une denrée qui est importante pour notre pays. Il nous offre beaucoup d'avantages et il permet à la population de pouvoir recouvrir rapidement des fonds. J'ai choisi de venir ici pour essayer de voir le premier modèle qui a été développé sur ce site ici par la Fondation Virunga, qui consiste à avoir une unité agro-industrielle autour de ces cultures pérennes. C'est-à-dire que vous avez une unité qui transforme le cacao, qui transforme le café et qui apporte une transformation aussi au palmier. C'est très important puisque comme nous sommes dans ces grandes agenda de transformation agricole qui est appuyé par la Banque africaine de développement. Nous voulons avoir un modèle qui marche. Et donc je crois que ce modèle ici de Mutuanga, c'est un modèle qui marche. Il crée assez d'emplois. Il permet d'avoir une valeur ajoutée pour les produits, mais aussi il permet de réduire les sécurités autour des zones qui sont concernées. Et donc on a eu des discussions avec les gouverneurs de province et les directeurs des parcs pour essayer de voir comment on peut élargir cette question des dispositifs de sécurisation des champs, notamment du cacao. Vous savez, c'est des produits de grande valeur ajoutée.
Actualité internationale.
L'armée israélienne a détruit samedi 6 septembre une nouvelle tour d'habitation dans la ville de Gaza. La tour Soussi, située dans la zone que l'armée avait appelée à évacuer, cette frappe s'inscrit dans le cadre d'une offensive terrestre imminente alors qu'Israël affirme contrôler 75% de la bande de Gaza et 40% de la ville. L'armée justifie ces frappes en accusant le Hamas d'utiliser les immeubles résidentiels comme base d'opération. C'est que le mouvement islamiste dément. En réponse, l'ONU alerte sur un risque de désastre humanitaire estimant à 1 million le nombre de civils encore présents dans la ville. Israël a désigné une zone humanitaire à Al-Mawasi, dans le sud de l'enclave, mais des témoignages sur place dénoncent une surpopulation extrême et l'absence d'infrastructures suffisantes.
L'invité.
À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le réseau de développement humanitaire et communautaire RODEC Sud-Est a présenté ce vendredi les résultats de sa campagne de sensibilisation menée en 2025 contre l'épidémie de choléra. C'était au cours d'un atelier d'évaluation organisé après les interventions dans les zones de santé d'Elikasi et Kambove. Pour en parler, nous recevons Donatien Kabwanda, coordonnateur de RODEC Sud-Est, et il revient sur les principaux résultats de cette campagne dans cet extrait avec Paulin Munanga.
Messieurs les coordonnateurs Donatien Kabwanda, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes de la Radio Okapi.
Vous venez de présenter les résultats d'une activité que vous avez pu mener en rapport avec le choléra dans les zones de santé de Likasi et Kambove. Quels sont les résultats qui sont ressortis de cette enquête-là?
Lorsque nous étions sur le terrain en train d'intervenir, nous avons constaté qu'il y a eu une difficulté énorme. Alors, la population était en train de chercher une bonne qualité d'eau. Pendant que la difficulté énorme que nous avons épinglée, nous avons constaté que la population est en train de consommer une mauvaise eau des rivières de Kampemba et des rivières qui versent du côté air de santé Mukumbi et vers Moura.
C'est où là-bas?
C'est dans les territoires de Kambove, zone de santé de Kambove, voisin de la zone de santé de Vangou. Ainsi que la zone de Likasi, nous avons eu les mêmes choses. Nous avons constaté que la population de la zone de santé de Likasi et surtout la population qui habite le long ou bien au bord de la rivière Boulouo. Boulouo, c'est une rivière vraiment pris des inondices, donc une mauvaise qualité d'eau que la population est en train de consommer de cette rivière-là. Alors, c'est là que nous avons constaté ou trouvé que la provenance de plusieurs cas de l'épidémie choléra, la population s'affecte à partir de là, à partir de cette rivière de Boulouo et celui de Kampim.
Et cela est dû à quoi? Au manque de l'eau potable et de la régie des eaux?
Oui, c'est parce qu'on a constaté que la plupart des tuyaux qui a été installés, des régies des eaux, des robinets, étaient déjà cassés, troués. En tout cas, la population n'a pas encore l'accès à l'eau potable, même s'ils sont en train de s'approvisionner avec les peu de robinets de régie des eaux, mais ils sont en train de consommer une mauvaise eau parce que le robinet est déjà troué et cassé. Il y a des ordures qui entrent là-bas, donc il y a certains microbes qui entrent vraiment dans le robinet de la régie des eaux.
Et sur le terrain, quel a été votre travail exactement?
Oui, sur le terrain, vraiment, en tout cas, le travail qui a été abattu par l'ONG RODEC de la RDC Sud-Est en collaboration avec l'ONG ACOD Sud-Est de la RDC, Action Communautaire pour le Développement et Réseau Humanitaire Développement Communautaire, sur 100%, nous avons eu atteindre quand même 75% dans le nombre de bénéficiaires attendus dans les deux zones.
Qu'est-ce que vous faisiez sur le terrain?
Sur le terrain, nous sommes en train de mener la sensibilisation donc dans des ménages, dans des églises ainsi que dans les hôpitaux qui sont bien préparés vraiment.
Comment se faisait cette sensibilisation?
Donc des porte à porte ainsi que dans les marchés, dans les églises, ainsi que dans les écoles.
Nous avons 27 zones de santé dans le Haut-Katanga. Sur base de quels critères vous avez ciblé seulement les deux zones de santé qui sont Likasi et Kambov pour cette campagne de sensibilisation?
Si nous avons ciblé les deux zones de santé, c'est un rapport avec la collaboration qui se passe. Il y a de bonnes relations entre les ONG et les BCZ.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés au cours de cette sensibilisation?
Nous avons constaté que non, l'environnement était pollué. En tout cas, des fois, l'organisation n'avait pas un bailleur de fonds. Les problèmes que nous avons, que nous sommes en train de faire face, c'est le problème de financement. Nous, l'ONG RODEC de la RDC Sud-Est, ensemble avec l'ONG ACOD Sud-Est, nous sommes habités devant une grande difficulté parce que souvent, nous les ONG qui sont sur le terrain, on ne trouve pas les financements. Lorsqu'il y a appel à manifestation d'intérêt, vous apprenez, oh, il y a tel ONG qui est passé, oh, qui a été retenu, même si vous avez des documents, mais ces ONGD-là, vous allez apprendre qu'ils sont vraiment sélectionnés. Or, nous n'avons jamais vu ces ONGD-là sur le terrain. Mais nous qui sommes sur le terrain, nous sommes vraiment victimes de ne pas avoir un financement. Nous avons totalisé beaucoup d'années, beaucoup de temps depuis l'an 2010 que nous existons ici au Katanga. Nous sommes en train de demander aux autres intervenants humanitaires ou acteurs humanitaires qui ont des financements, des moyens, ils peuvent aussi nous appeler pour que nous puissions aussi avoir l'accès au financement afin que nous puissions sauver les vies humaines de la communauté qui est vraiment vulnérable.
Monsieur Donatien Kabwanda, je vous remercie.
Merci, messieurs les journalistes de la Radio Okapi.
Dans cet entretien avec Paulin Munanga, Donatien Kabwanda, coordonnateur du réseau de développement humanitaire et communautaire, nous parlait des résultats de la campagne de sensibilisation contre le choléra menée dans les zones de santé de Likasi et de Kambov. Ce journal vous a été présenté par Gisèle Cage. La mise en onde a été assurée par Billy Landry Beto, coordination de Jean Gando Kabongo. Merci de votre attention. L'actualité s'est poursuivie sur Radio Okapi et sur nos plateformes numériques. À très bientôt sur la même fréquence.